Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur, auditeur de Radio Silence. Ma chronique Finance Vérité numéro 28 d'aujourd'hui a pour titre générique Manipulation des manipulations. Tout n'est que manipulation. Dans l'actualité économique de ce moment, un exemple de manipulation actuelle avec quelques rappels de sinistre mémoire. 1992, le traité de Maastricht fut réputé approuvé par référendum dès 20h par Mitterrand et du bout des lèvres contraint et forcé par Beregovoy à minuit sur des chiffres officiels de 51% des exprimés et de 34% des inscrits. Ce traité prévoit le passage à la phase 3 de l'Union économique et monétaire à la condition que 5 critères soient réunis par les pays candidats à la mise en place de l'écu concret comme monnaie unique. Cet écu concret a commencé à circuler scripturalement depuis 1979. Cette circulation double l'existence de l'écu composite, panier de monnaie, aboutissant à la détermination quotidienne d'une valeur dans chaque monnaie composante. Cet écu composite existe depuis la création du SME en 1976. Les deux cours de ces deux écus sont très légèrement différents. 1996, invention de l'euro. Déferlement de mensonges d'État et de propagande avec Néo, Missi, Dominici envoyés dans tous les départements pour expliquer que l'euro n'est que le nouveau nom de l'écu et que rien n'est changé aux dispositions de Maastricht. Faux. 1998, déferlement de propagande d'État faisant croire à 90% de la population que l'euro sera dans les poches dès le 1er janvier 1999. Personne ne parle du non-respect par tous les pays candidats des fameux 5 critères. Je suis bien seul, alors, à souligner que l'euro ne sera plus que scriptural durant 3 ans, qu'il est mis en place en violation du traité de Maastricht, que les gens ne sont donc engagés à rien, que le SME sera remplacé par un SME bis avec les autres monnaies de l'UE non partantes dans la première charrette des 11 pays de la zone euro, que l'euro sera forcément dévalué de 20% au moins du fait même de la mise en place prévue. Je me fais insulter et traiter plus bas que terre. L'euro perdit moins 35% en 2 ans face au dollar US. 2002, l'arrivée dans les DAB, distributeurs automatiques de billets des premiers billets en euros, est accompagnée d'une formidable propagande portant essentiellement sur le caractère joli de ces nouveaux billets, puérils. Je souligne 3 mois plus tard qu'ils sont tous faux et illégaux. Je prêche dans le désert. Le public ne réagit plus du tout. 2008, la propagande parle d'une crise économique soudainement provoquée par les banques américaines, ces ignardes comparées à nos banques modèles. La sacro-sainte croissance deviendrait négative, ce qui est déjà extrêmement grave. Puis soudainement, en octobre, tous les médias emploient simultanément, il faut le noter, le mot interdit depuis 20 ans de récession. Tout le monde panique. Il était répété sans cesse que le crédit diminuait et que l'économie allait s'écrouler du fait de l'incapacité des banques à continuer à faire du crédit. J'ai beau intervenir partout, à la radio, dans la presse, par Internet, pour crier au scandale de cette manipulation grossière, rien n'y fait. Pourtant, tombent toutes les semaines des statistiques de la Banque de France précisant que si l'augmentation de la masse de crédit, 123 milliards, diminue faiblement de 3 milliards, elle reste énorme. Augmentation, diminution d'augmentation. Grosse nuance. Il n'y a donc jamais eu de crise du crédit, comme j'ai été le seul à le dénoncer de source sûre, la Banque de France. Pour continuer sur cette lancée, je vais me mettre dans la peau d'un journaliste titulaire de la carte de presse tellement convoitée et qui n'est accordé qu'aux fidèles du régime, ou aux idiots. Voici ce que je vous annonce de source officielle, aujourd'hui, Banque de France. Depuis 2 ans, De février 2008 à février 2010, l'endettement des entreprises est passé de plus 14% annuel à moins 2%, et le recours à l'augmentation de leurs fonds propres est passé dans le même temps de moins 4% à plus 20%. L'évolution est donc très favorable, non ? De plus, le solde du commerce extérieur s'améliore de plus 4,4 milliards d'euros de décembre 2009 à janvier 2010, lui-même en amélioration de plus 3,4 milliards de décembre 2008 à décembre 2009. C'est-il pas favorable tout ça ? Tout va donc très bien et dans le bon sens pour la France, modèle des nations, alors qu'ailleurs, je ne vous dis pas la déconfiture que bien entendu nous évitons, comme nous avons évité le nuage de Tchernobyl en 86, tandis que nos voisins se le payaient plein pot, grâce à une météo d'autant plus complaisante qu'elle était travaillée à cet effet par les présentateurs de la télé. Seulement, en réalité, au lieu des bonnes nouvelles ci-dessus, voici ce que tout bon journaliste soucieux de vérité aurait dû annoncer aujourd'hui de la même source officielle Banque de France et avec les mêmes tableaux statistiques. Les chiffres provisoires pour juin 2009 et les derniers connus en janvier 2010, encore plus provisoires, en notre possession, indiquent que le taux d'intermédiation financière, c'est-à-dire le travail des banques, au sens large, est de 54,7%. 45,6% de la part des banques avec la Banque de France et les entreprises spécialisées, 5,1% de la part des sociétés d'assurance et de 3,9% de la part des OPCVM. Les instruments d'acheminement de cette intermédiation financière sont pour 41,4% sur 54 les crédits, devançant donc de très loin les autres instruments employés. Actions 3,1%, obligations 7,1%, titres du marché monétaire 3,1%. On voit donc bien que même si une amélioration s'est produite dans le bon sens, nous sommes encore loin du compte, avec 4 fois plus de recours au crédit qu'à l'augmentation des fonds propres. Quant au secteur bénéficiaire de cette intermédiation financière, ils sont à 22% pour les entreprises, 21% pour les ménages et 11,7% pour les administrations qui continuent de s'endetter. En ce qui concerne l'état du commerce extérieur français, toujours selon les chiffres provisoires entachés d'erreurs ou omissions de plus de 33 milliards, nous apprenons que le déficit depuis 2008 à janvier 2010 inclus s'établit à moins 44 milliards en 2008, chiffre semi-définitif, 40,6 milliards en 2009 et 36,2 milliards en janvier 2010, provisoire. Ce déficit grave est financé principalement par des investissements de portefeuille et des engagements, autrement dit par des recours au crédit international et à la vente de nos entreprises ou de titres d'administration titrisés. Pas joli joli tout ça, non ? Mon conseil patrimonial du jour. Pâques est arrivé. Faisant suite à mes dires de l'année dernière, je peux déjà préciser que le dollar US est remonté de 0,66 à 0,74 euros, soit une plus-value pour les détenteurs de dollars de plus 12%. Je voudrais préciser de plus que les manipulations de cours, principalement dues aux traders bancaires, freinent le retour à la parité et je maintiens mon information. Selon moi, nous suivons un cap vers un dollar à 1 pour 1. Une très probable exagération d'un dollar de nouveau supérieur à l'euro dans quelques mois permettra aux prévoyants de sortir très haut à plus de 50% de gains finaux. Pour l'or, c'est la même chose. D'incroyables manipulations évoquées ci-dessous maintiennent le cours à un bas niveau de l'ordre de 1100 dollars l'once anglo-saxon, mais tout de même avec déjà une forte plus-value sur les cours d'il y a un an. Et donc ceux qui ont suivi mes conseils peuvent déjà sortir avec de bons bénéfices supérieurs à 15% net des frais et taxes, pourtant très élevés, de plus de 35% du tout, toujours du capital d'origine. Sur 150 euros la pièce de 20 francs achetée 100 francs il y a un an et demi environ, le bénéfice de 50% ne laisse que 15 euros environ net. Si pas pressé, attendre une prochaine montée en flèche, certaine pour moi. Mon histoire de la monnaie, chapitre 28. Quatrième partie et fin de la rétrospective 3 sur le contenu des porte-monnaies de nos mères et arrière-grand-mères, cette fois sous les 4e et 5e républiques. La 4e république ramène un peu de couleur dans toute la grisaille héritée de la guerre en frappant de 1946 à 58 de nouveaux jetons. 100 francs de cupronickel avec la devise liberté, égalité, fraternité et un épi de blé, 50 francs en bronze et aluminium, 20 francs du même alliage avec Marianne et le coq gaulois, 10 francs de cupronickel, 10 francs en bronze plus aluminium, le coq toujours gaulois au revers. Toutes ces pièces ont bien les mêmes valeurs faciales que celles du Second Empire, mais malheureusement plus du tout la même valeur intrinsèque. Quant aux valeurs d'échange, les francs indiqués se sont beaucoup dévalués. Il faut alors en effet 100 francs, donc une grosse pièce de cupronickel, pour obtenir les marchandises achetées 1 franc d'argent un siècle auparavant. Le franc a donc été dévalué de 99% économiquement, parallèlement à la même dévaluation intrinsèque des pièces. La 5e République. Il faut distinguer deux périodes dans la 5e République, celle où son fondateur gouverne et celle où les politiciens ou rancards, comme il les nommait, reviennent au gouvernement après lui. Tout d'abord, du temps de De Gaulle et de Pinet, de 59 à 69. Dans l'impossibilité de remettre l'or en circulation du fait qu'il est maintenant réservé aux échanges entre banques centrales nationales et déposé en bonne part au FMI dans le cadre des accords dits de Bretton Woods, la 5e va cependant s'efforcer de remettre l'argent en circulation, très partiel, en frappant des pièces de 5 francs d'argent à 835 millièmes de fin, de 12 grammes, donc 10,02 grammes d'argent pur. Le franc retrouve alors une parité de 2 grammes d'argent pur contre 4,175 grammes au début de la troisième en 1871 dans sa pièce de 1 franc 88 ans plus tôt. Pas mal tout de même. Mais cette pièce de 5 francs est alors réservée aux personnes âgées qui les reçoivent en paiement de leur retraite à la poste. Les autres pièces restent de simples jetons. 2 francs de nickel, 1 franc de nickel, 1 demi-franc de nickel, les pièces de valeur faciale inférieure de 20, 10 et 5 centimes sont toutes en alliage bronze plus aluminium. Leur poids ne veut vraiment plus rien dire et sont dorénavant calculés uniquement en fonction des besoins des machines à sous. SIC. Après De Gaulle, de 70 à 2001. C'est la 5e République revue et corrigée par VGE, Mitterrand et Chirac qui nous frappe des pièces de 5 francs en cupronickel qui va vite remplacer l'autre suivant la loi de Gresham, la mauvaise monnaie chassant toujours la bonne. En résumé, mais VGE va tout de même mettre en circulation, toujours via les retraités à la poste, une nouvelle pièce de 50 francs, type Hercule, de 30 grammes à 900 millièmes de fin, ce qui met le franc argent à la parité de 0,54 grammes en dévaluation de moins 73% sur celui du général de Gaulle de 59. Les deux pièces à forte teneur en argent pur de 5 et 50 francs seront très vite démonétisées en 1980 et retirées de la circulation monétaire officielle, mais conservées dans bien des bourses par la thésaurisation des particuliers. On ne les retrouve plus que dans les bas de laine privés et pour cause. Le peuple ne s'y trompe pas et thésaurise la bonne monnaie. La confiance a totalement disparu. C'est si vrai que les rares pièces de type Panthéon de 100 francs de 16 grammes à 900 millièmes de fin, remises, toujours pareil, aux retraités par la poste, ne circulent plus du tout et sont immédiatement thésaurisées. Je me souviens d'avoir payé un taxi avec une de ces pièces en affirmant ma volonté de faire circuler l'argent. Le taximan m'a aussitôt rétorqué qu'il allait la donner dans la tirelire de son fils et donc la thésauriser. On ne lutte pas contre la nature. Les autres pièces sont des jetons identiques aux précédents depuis 1959. En apparaissent cependant deux nouveaux. En 1988, un 10 francs bimétallique au centre en nickel pur et le tour en cuivre plus aluminium. En 1992, un 20 francs trimétallique au centre en nickel et le tour comme le point central en bronze plus aluminium. En 2001, la dévaluation économique du franc a été telle depuis 1920, ce qu'on appelle l'inflation par les prix, que les pièces se voient réservées de facto aux seuls petits échanges, même les pièces de 20 francs. Les échanges s'effectuent dorénavant au moyen de billets, dits de banque. Il s'agit de papier coloré, émis, mais on devrait plutôt dire souscrit, car il s'agit encore de billets à ordre, juridiquement parlant, par la Banque de France, en France, à l'instar des autres BCN d'Occident. Ces billets ont alors des nominaux de 20, 50, 100, 200 et 500 francs. Le moindre caddie au supermarché coûte alors environ 1500 francs s'il est bien plein. Le 31 décembre 2001 constitue une date historique de la plus haute importance pour la France et les Français, car il fut le dernier jour de la circulation officielle du franc en France. Les Français ont alors démontré que malgré la propagande éhontée qui s'est déversée sur eux depuis le 1er janvier 1998, donc depuis 3 ans, et les pressions sans cesse grandissantes dont ils furent victimes de la part des administrations et des entreprises publiques comme EDF et La Poste d'abord, puis de la part des banques et enfin des commerçants, que le gouvernement a dû acheter avec 10 000 francs de subventions par tête et sous la menace de contrôles fiscaux, c'est-à-dire de taxations arbitraires illimitées pouvant les mettre à la rue. Les Français, donc, ont résisté jusqu'au bout et conservé le franc dans leurs échanges à 97%. C'est officiel. Le gouvernement maçonnique est alors en furie et fait pression sur les commerces pour retirer le plus vite possible les francs de la circulation, avec comme moyen l'obligation de prendre les francs en paiement et de ne rendre la monnaie qu'en euros. Ce qui évidemment me fait hurler à chaque passage en caisse. Une résistance acharnée, qui dure encore en 2010, laisse encore, dit-on, largement plus de 10% des francs jadis en circulation dans les bas de laine privées. J'ai moi-même gardé un échantillonnage complet des pièces et billets en francs pour l'information de mes descendants. Depuis 2002, circule donc en constante progression la nouvelle monnaie abstraite, inventée de toutes pièces, entre guillemets, en 1996, et mise en circulation scripturale dès le 1er janvier 1999, avant de l'être de manière concrète en pièces et billets nouveaux 3 ans plus tard. Malgré la propagande, 95% des échanges se font encore en francs par chèque et carte le 31 décembre 2001. Les nouvelles espèces, entre guillemets, auxquelles le gouvernement français de la Ve République a octroyé le cours légal, sont des billets de papier de 500, 200, 100, 50, 10 et 5 euros de valeur nominale. Ces billets ne sont plus des reconnaissances de dette de la Banque de France. Juridiquement parlant, ce ne sont plus des billets à ordre, ce ne sont plus que des bouts de papier colorés. Des jetons de qualité intrinsèque identiques aux anciens francs de 2001, de 2 et 1 euro, des 50, 20 et 10 centimes en or nordique, c'est-à-dire en imitation d'or, avec un alliage de métaux communs habituels, et les pièces de 5, 2 et 1 cent, faites d'un flanc de fer plaqué cuivre. Il rouille. Le pouvoir d'achat d'un euro est d'environ 0,04 g d'or pur et de 2,33 g d'argent pur en ce début 2010, soit une dévaluation de moins 99,88% sur le franc or et d'environ 50% sur le franc d'argent d'avant 14-18. Sous une apparente réévaluation de 6 et quelques fois de l'euro sur le franc, nous constatons donc une réelle dévaluation, comme toujours, dans l'histoire. Et ceci dans un marché, en plus, privé de cotation officielle, donc de parité, même flottante, par un décret de Chirac. Tout fluctue en attendant que tout coule. Ces valeurs résultent en effet de la seule cotation au fixing de Londres en dollars US d'abord, convertie ensuite en euros. Cette valeur, entre guillemets, est elle-même absolument artificielle, résultant des manipulations de cours de la part du FMI et des banques centrales, de même que des principaux thésaurisors du monde. Il y a même maintenant une différence très importante entre les cours de l'or métal concret et de l'or papier sous forme de titres. Il faut savoir que la seule détention d'or vrai sert de mobile au délit du tiers détenteur qui n'hésite pas à vendre des titres en or papier alors qu'il ne possède pas lui-même un gramme de l'or qui lui est simplement confié. Une nouvelle pyramide inversée a donc été amorcée et il est extrêmement dangereux de s'aventurer sans conseils éclairés sur ce terrain plus que marécageux. Voilà où en est l'Occident en ce début 2010 et la pauvre France est piétinée par les anglo-saxons. Nous verrons dans notre prochain chapitre numéro 29 quelles conclusions nous sommes amenés à tirer de cette histoire de la monnaie depuis Alésia. À dans une quinzaine. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, auditeur de Radio Silence.